Nous sommes à l'école d'art de Belfort en ce 19 janvier où vient de s'achever une conférence ici à l'école et où était invitée Estelle Song. Bonjour, bonsoir.
Plutôt. Bonsoir.
Et donc vous venez de soutenir une thèse qui est en quelque sorte la communication que vous venez de donner qui s'intitule « La communauté de singularité, figure de l'individu et du collectif dans l'art participatif en Grande-Bretagne ». De 1997 à nos jours. Alors d'abord, ma félicitation pour cette soutenance réussie et peut-être exposer en quelques mots ce que vous avez déjà dit lors de cette conférence ce soir ici à l'École d'Art.
Bien sûr. Alors moi, ce qui m'intéressait dans cette thèse, c'était d'explorer cette nouvelle pratique contemporaine qu'on appelle l'art participatif et qui consiste en fait en une collaboration de l'artiste avec d'autres gens pour créer une œuvre, une collaboration en présence. Et cette transformation de la forme de création des œuvres, pour moi, a des enjeux artistiques, esthétiques, parce qu'elle remet en cause beaucoup de nos préconceptions de ce qu'est une œuvre, de ce que doit être un artiste. Et elle a aussi des enjeux sociaux et politiques qui transparaissent un peu dans le titre de ma thèse, puisque, si vous voulez, j'avance aussi l'idée que je n'ai pas développé ce soir, qui est que l'art participatif arrive à inventer de nouvelles formes du collectif, notamment de nouvelles formes de communauté, et que j'appelle communauté de singularité. Voilà.
Et d'où le terme anglais aussi, community art.
Voilà. Exactement.
Alors vous avez cité de nombreux artistes comme étant représentatifs peut-être de cette forme d'art, donc je peux en reprendre certains, Hirschhorn, Deller ou d'autres artistes. Et alors, moi, je voulais juste en évoquer un et vous le présenter rapidement. Et puis peut-être vous pourrez rebondir sur un autre qui vous tient peut-être plus particulièrement à cœur, bien que ce soit tout relatif ceci. Mm-hmm. Mais moi, j'ai découvert une artiste à deux occasions. D'abord, non loin d'ici, au Krak à Alkirch, lors d'une exposition sur la notion justement de communauté aussi, justement, qui était une exposition qui est précédente. Au Krak, donc tout près de Mulhouse, entre Mulhouse et Belfort. Et c'est une artiste italienne, Marinella Senatore, et qui avait la particularité dans cette exposition de présenter un travail sur la narrative dance et un travail où elle invite des personnes justement à danser, mais dans des lieux qui se déplacent là où elle se rend. Et par le hasard aussi un petit peu des déambulations qu'on est tous amenés à faire lorsqu'on visite divers lieux, à la Biennale de Lyon, elle était également présentée puisque elle a fait un travail, si je ne dis pas de bêtises, avec une chorale et à qui elle a demandé de rechanter des chants célèbres de l'histoire lyonnaise, notamment les Canuts, la révolte des Canuts. Et voilà, donc c'était une artiste, moi, comme ça, en écoutant votre communication, qui me semblait pouvoir peut-être rejoindre cette notion-là de communauté, et peut-être que le titre de l'expo à Alkirch le confirme. Alors, est-ce que vous avez peut-être un des autres artistes que j'ai cités ou un autre dont vous voudriez peut-être dire à nouveau quelques mots comme étant une attitude emblématique justement de cette forme d'art?
Juste deux mots sur Marie.
Voilà, oui, bien sûr, je vous laisserai rebondir.
C'est intéressant parce que justement, si vous voulez, d'après ce que vous m'en dites, parce que je connais mal son œuvre, mais ça correspond vraiment à cette idée que j'aimerais faire passer, qui est que l'artiste participatif ne va pas, aider des gens à développer leurs compétences, ne va pas les sortir d'une inactivité dans laquelle ils seraient plongés, mais si vous voulez, va chercher vraiment des compétences que lui n'a pas, et c'est ce que fait Marinella Senatore quand elle va chercher cette chorale, ou j'imagine ses danseurs, et qui pour moi n'est pas, justement je pense que c'est un point important, qui n'est pas de l'ordre de l'instrumentalisation, parce que si vous voulez, à partir du moment où les gens acceptent de le faire, ce serait leur retirer quand même un certain libre arbitre de postuler qu'ils le font quand même contraints ou quand même impressionnés par le statut symbolique de l'artiste. Il me semble que jusqu'à preuve du contraire, on peut postuler que les gens prennent leurs décisions en bonne conscience et que pour eux, ils y voient un intérêt, alors j'imagine des intérêts divers à accepter cette proposition de Marinella Senatore, et qu'à mon avis, ils y sont pleinement acteurs et pas pur support, subissant les injonctions de l'artiste, qui est quand même une conception assez répandue sur l'art participatif. Et ça me permet, du coup, Je ne réponds pas à votre question, mais...
Non, mais c'est aussi ça,
le jeu,
c'est ça. Qui va sinuer selon là où se
Bien
place
sûr.
La pensée, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Et moi, je suis toujours intriguée. Bon, comme vous avez pu le voir dans la conférence, je suis assez engagée sur cette question. Je suis toujours intriguée par le fait que, quand on parle de participation, la question qui arrive très vite, c'est... mais jusqu'à quel point les participants, comment dirais-je, sont... ont la main mise ou non sur le projet. C'est-à-dire que, alors même qu'avant, il n'y avait pas du tout de participation, et qu'on ne le vivait pas comme un manque particulier, maintenant qu'il y a une participation, il faudrait qu'elle soit pleine, surpassant celle de l'artiste, pour pouvoir être satisfaisante d'un point de vue moral, je ne sais pas, ou éthique. Alors qu'à mon avis, c'est une question qui n'est pas très pertinente, et que je pense qu'il faut continuer à se poser la question des effets des œuvres, comme pour n'importe quelle œuvre de n'importe quelle autre pratique contemporaine.
Très bien. Alors, maintenant, un petit mot sur un collectif d'artistes sur lequel vous vous êtes penché antérieurement à votre thèse. C'était à l'occasion d'un mémoire de master. Et donc, c'est ce collectif né en 84 et qui se nomme Force Entertainment, créé à l'initiative de Tim Etchell, si je prononce bien. Et donc, il se trouve que je me permets de vous poser la question parce que nous, à l'espace multimédia Gantner, nous avons dans notre œuvre, dans notre collection d'œuvres d'art numérique, une des œuvres de ce collectif qui est donc Night's Walks, créé en 1999, qui est un CD-ROM d'artistes. Donc voilà, donc là, c'est plutôt vous faire réagir sur ce collectif, comme vous y avez travaillé assez longuement, et peut-être nous dire un mot aussi, comme je le répète, moi je n'ai pas la possibilité de lire suffisamment en anglais, sur cet écrivain qui est à l'origine de ce groupe, nous dire en quelques mots qu'est-ce qui se spécifie son écriture.
Alors, Force Entertainment, c'est un groupe très important en Angleterre dans l'histoire de la performance théâtrale, qui est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup en France, mais qui est plus répandu en Angleterre, pour désigner justement cette forme de théâtre émancipé des formes traditionnelles, c'est-à-dire un théâtre qui n'essaye pas de jouer des pièces écrites, mais qui va conjointement créer le texte qu'il va jouer, souvent sous des formes assez libérées comme l'improvisation, par exemple, ou l'écriture collective, et qui va donc être à la fois son propre dramaturge, son propre metteur en scène, son propre acteur, avec aussi toute une envie de travail collectif qui est caractéristique, si vous voulez, du théâtre anglais à partir des années 70. Force Entertainment, c'est plus années 80, mais si vous voulez, c'est vraiment un héritier de cette émancipation du théâtre-là. Et ils sont vraiment remarquables parce qu'ils font ces procédés très étonnants, qui est de l'improvisation sur scène pendant des heures. Ce qui est très exigeant si on a fait un peu de théâtre. Déjà, pendant un temps limité, c'est très difficile. Et eux, ils font ces pièces comme... alors, il faut que je me rappelle, Thousand Nights, je crois que ça s'appelle. Ou, si vous voulez, sur le mode de Scheherazade et les Mille et Une Nuits. Ils sont en ligne comme ça sur scène. Et quelqu'un va raconter une histoire. Donc, en fait, dans cette émancipation du théâtre, il y a aussi cette idée qu'on ne va plus représenter des actions sous une forme illusionniste, mais qu'on peut aussi raconter directement au spectateur. Et donc, quelqu'un raconte une histoire et eux, ils vont reprendre un élément de l'histoire qui a été racontée pour en refaire une autre histoire, comme ça, indéfiniment. Et à mon avis, cette capacité, justement, à raconter des histoires, elle leur est insufflée en grande partie par Tim Etchells, qui est, si vous voulez, auteur... dramaturge important de cette troupe et qui lui a vraiment essayé justement de voir jusqu'à quel point comment dirais-je, la performance pouvait se transformer en expérience émancipée de la salle de théâtre. Il a vraiment essayé de pousser dans cette direction, notamment en faisant ses voyages en bus dans la ville où on peut voir, où justement il raconte on peut entendre une histoire que lui a composée, mais il est vraiment, comment dirais-je, il a vraiment tiré vers l'idée du théâtre comme narration, si vous voulez, pas représentation, et narration aussi hors de la salle de spectacle. Et il a une écriture très poétique, très belle. Vraiment, aujourd'hui, c'est toujours une figure très importante de ce qui s'appelle en Angleterre le live art, l'art vivant, qui recoupe... qui n'est pas tout à fait la même chose que les arts du spectacle en France, et qui est vraiment cette performance émancipée des codes à la fois de la danse et du théâtre classique, qui essaye d'inventer de nouvelles formes, si vous voulez.
Alors, ben, c'est parfait, je me permets juste de compléter ce que vous venez de nommer en disant expérience émancipée de la salle de théâtre, mm-hmm. puisque nous, donc, il s'agit d'un CD-ROM, et la notice dans le catalogue qui décrit l'ensemble de cette collection emploie les mots suivants: fruit d'une collaboration entre Tim Etchells avec Force Entertainment et le photographe Hugo Glendinning, Night Walks est une errance dans un paysage urbain et nocturne où se jouent les scènes d'un film imaginaire. La présence de personnages dans des poses ou des vêtements parfois incongrus contribue à produire un sentiment d'étrangeté à l'atmosphère de la ville et au récit. Presque irréel, des scènes d'amour, d'errance, de solitude et d'intrigue semblent saisies dans un temps arrêté dans lequel le spectateur est invité à chercher dans l'image l'indice qui lui permettra d'accéder au panorama suivant. Voilà, c'est une simple lecture pour rebondir justement à cette caractéristique-là. Et donc pour clore cet entretien, et avant donc de vous remercier d'y avoir participé comme ça au pied de levée, est-ce que vous auriez une lecture à nous recommander? Vous avez cité plusieurs ouvrages dans votre communication, peut-être justement une lecture peut-être moins connue ou étrangère, justement, comme vous avez la chance de pouvoir lire d'autres auteurs. Enfin, voilà, un conseil de lecture.
Alors, je vous conseillerais de lire un ouvrage de Grant Kester, K-E-S-T-E-R, qui est un historien d'art américain, qui a écrit ce livre qui s'appelle Conversation Pieces, donc œuvre de conversation, si vous voulez. Le sous-titre, je crois, c'est Communication and Community in Modern Art, donc la communication et la communauté dans l'art moderne, et qui fait une relecture très intéressante de tout l'art moderne à partir justement de la relation instaurée entre artistes et spectateurs, qui l'amène jusqu'à l'art participatif aujourd'hui. Et c'est vraiment une lecture très importante parce qu'elle permet de nous faire prendre conscience de toutes nos conceptions de l'art qu'on ne formule pas normalement, qui sont pour nous une sorte comme ça de dîner, et de nous interroger justement sur ce qui vaut la peine d'être fait en art à l'aune de ce qu'on pense qu'il doit faire.
Très bien, bah merci beaucoup. Et puis donc bonne continuation dans vos activités de chercheuse. Et bonne soirée, merci.
Je vous remercie.